Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, Trump et l'Iran, le degré zéro de la diplomatie.
Eh oui, le canal diplomatique avec Washington définitivement fermé, c'est ce que vient d'annoncer l'Iran après de nouvelles sanctions américaines. Hier, l'ONU appelle au dialogue, mais l'Iran réclame d'abord que les États-Unis relâchent la pression économique. Personne ne veut la guerre, mais après l'épisode du drone américain abattu, nul ne peut obtenir l'apaisement, alors que peut effectivement la diplomatie. On voit ça avec vous, Clément Terme. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous depuis Bahreïn, où vous êtes chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'International Institute for Strategic Studies. Alors, parlons de ces nouvelles sanctions. D'abord, américaines, il y avait déjà eu deux vagues de restrictions économiques depuis l'année dernière. Cette fois, ce sont des sanctions financières qui visent directement les officiels du régime. Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, l'ayatollah Ali Khamenei, des gardiens de la Révolution aussi. À quoi est-ce que ça rime pour les États-Unis aujourd'hui de frapper la tête de l'Iran?
Oui, c'est d'abord des sanctions symboliques hein, qui sont perçues comme une provocation en Iran, ce qui est ironique puisque l'Iran, la République islamique, est habituée elle-même des provocations. Donc l'Iran et les États-Unis pratiquent sous Trump et sous Khamenei une diplomatie qui est similaire. Par contre, ce qui pose problème, c'est avec cette toute dernière sanction qui vise à la fois le guide suprême et dans la semaine, ça a été annoncé, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif, c'est la capacité des autres acteurs internationaux à jouer le rôle de diplomate, puisque les États-Unis ont failli dans cette position et on espérait finalement que les pays de l'Union européenne, voire la Russie ou la Chine, puissent contrebalancer cette escalade américaine. Et je pense que l'idée de ces dernières sanctions, c'est de bloquer tous les canaux de discussion avec l'Iran. Donc c'est au lieu d'avoir une escalade militaire, le président Trump a choisi une escalade diplomatique.
Et effectivement, avec les autres diplomaties qui appellent à la retenue dans une réunion hier à huis clos du Conseil de sécurité, qu'on revienne un peu sur ces sanctions quand même. Pourquoi sanctionner aussi parmi les différents membres du régime, donc les gardiens de la Révolution que Trump a accusé d'avoir abattu le drone, on pourrait comprendre, mais pourquoi sanctionner Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui a négocié le dossier nucléaire iranien et qui est plutôt le pôle modéré du régime?
Oui, l'idée c'est de dire en fait, et c'est le discours des néoconservateurs américains, c'est qu'il n'y a pas de modéré et de conservateur, que tout le monde est radical en République islamique, et donc qu'il n'y a pas de différence à faire entre les différents membres, et surtout ils veulent empêcher la capacité de l'Iran à contourner l'escalade américaine. Donc l'idée c'est vraiment de bloquer tous les canaux externes pour obtenir la capitulation de l'Iran. Parce que pourquoi ces sanctions? L'idée qu'il y a derrière ces sanctions massives, c'est l'asphyxie économique du pays pour, en fait, quand les négociations commencent à la fin, c'est pour négocier la capitulation. C'est pas pour négocier un accord qui soit gagnant-gagnant. C'est pour négocier un accord qui soit selon les termes définis par les États-Unis d'Amérique.
Et eu égard à cette stratégie, alors à quoi ça correspond cette annonce parallèlement et cet envoi parallèlement de Mike Pompeo, donc ministre des Affaires étrangères américain, dans le Golfe, annonce d'une coalition désormais pour la sécurité de navigation dans le Golfe, alors que Donald Trump a dit que les États-Unis ne se chargeraient pas de ce fardeau. En quelque sorte, est-ce que c'est pour amener l'Iran à négocier ou est-ce que c'est en quelque sorte pour mettre un couvercle sur la cocotte minute du détroit d'Hormuz?
Je pense que c'est surtout pour se déresponsabiliser parce que s'il y a une escalade dans le Golfe où transite 35% du trafic maritime mondial de pétrole et 20% du trafic de gaz naturel liquéfié, les États-Unis pourraient être accusés d'être responsables de cette escalade. Donc l'idée, c'est de dire que tous les pays qui utilisent ou qui importent du pétrole qui transite par le détroit d'Hormuz sont aussi responsables de la sécurité, que c'est pas aux États-Unis de payer cette facture-là. Mais c'est intéressant de voir que Trump fait ses déclarations dans le contexte d'une escalade qu'il a lui-même provoquée avec l'Iran. Et il anticipe en fait des possibles affrontements militaires ou une escalade militaire dans le Golfe.
Et sur les toutes dernières tensions, donc il y a eu trois accidents armés en 5 semaines, je crois, ces dernières semaines, oui, dans le détroit d'Hormuz. Comment est-ce que vous les analysez? Comment est-ce qu'ils sont perçus à Bahreïn? Est-ce que c'est des dérapages ou des messages bien pesés, notamment ce drone abattu à un endroit litigieux encore, puisqu'il y a une guerre des récits aussi?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que le président Trump a un discours diplomatique sur l'Iran qui est en décalage avec le discours des administrations américaines, puisque Trump, lui, dit qu'il va, en asphyxiant économiquement l'Iran, conduire à une négociation et finalement à signer un nouvel accord qui rendra l'Iran et les États-Unis meilleurs amis, comme il dit toujours. Mais ses services, au contraire, lui l'informent du risque d'une escalade militaire et d'une réponse militaire iranienne qui va aller crescendo. Donc, c'est un peu la faillite du discours des radicaux américains qui disent finalement que quand il y a une politique d'ouverture vis-à-vis de l'Iran, l'Iran augmente ses activités régionales et notamment à travers son réseau d'influence, à travers ce qu'on appelle les proxys, donc les relais iraniens dans la région. Et le discours de Trump était de dire quand on va sanctionner l'Iran, qu'on aura une politique dure vis-à-vis de l'Iran, il y aura moins d'activités. Mais le problème, c'est que ce n'est pas l'analyse qui est faite par le département d'État, le Pentagone, aux États-Unis.
Oui, et pour l'instant, Trump a donc annoncé, ou plutôt évité, cette frappe qu'on pourrait appeler de Damoclès, avec cet épisode où, dit-il, il a refusé 10 minutes avant d'ordonner des frappes aériennes. Alors, vers quoi est-ce qu'on va? Un choc des ultras, ce serait possible? Vous disiez les conservateurs américains mis en échec. Il y a effectivement une pression qui a été mise également sur des intérêts américains, dit-on, en Irak, des explosions à la roquette vers Bassora, sur des bases aériennes. Est-ce que c'est avéré?
En fait, surtout, il y a la question du contrat d'ExxonMobil dans le sud de l'Irak, puisque quand il y a eu l'escalade des tensions, la compagnie américaine de pétrole, qui a un investissement très important de plusieurs milliards de dollars en Irak, dans le secteur pétrolier, a décidé de retirer son personnel. Donc oui, on va voir que s'il y a une escalade, finalement, ça va contribuer à la déstabilisation de la région. Et Trump ne veut pas de guerre. Et donc c'est la contradiction de sa politique, mais elle s'explique par l'hypothèse erronée sur laquelle il fonde sa politique. Donc il n'écoute pas ses propres experts, ses propres analyses. Donc c'est assez inquiétant, surtout que quand on sait que l'Iran est désespéré, que la République islamique a aussi des problèmes de légitimité à l'intérieur et qu'il y a une contestation populaire pour l'échec économique. La récession est de 6% en Iran. Donc ils pensent que l'impasse économique dans laquelle se trouve le régime va le conduire à la négociation. Mais le problème, c'est qu'au contraire, ce qu'on a observé dans le passé, c'est que quand il y a une pression économique qui s'exerce vis-à-vis de l'extérieur, l'Iran se contracte et le régime se durcit. Donc c'est étonnant d'avoir une politique qui est fondée sur des analyses erronées, mais qui risque de conduire finalement, sans le vouloir, à une escalade militaire.
Et alors, je ne sais pas si ça peut se décréter comme ça, mais c'est vous-même qui aviez dit dans l'opinion, je crois, que le seuil de bon fonctionnement de l'économie iranienne était de produire 1 million de barils par jour pour 500 000 exportés. Je crois qu'il y en a 750 000 qui sont produits actuellement. Combien de temps est-ce que vous estimez que le régime iranien peut tenir actuellement face à cette pression?
Alors d'abord, les dernières estimations pour le mois de juin, c'est 240 000 barils jour, donc c'est encore moins. Donc on voit l'efficacité, par contre, de la politique de sanctions économiques américaines. Ce qui n'est pas efficace, c'est l'objectif qui est assigné à ces sanctions, à savoir le changement de régime ou le changement de comportement à minima. Mais par contre, oui, ça pose un problème à la République islamique, qui va avoir du mal à financer son économie. Mais ils peuvent tenir quelques mois. Donc après, à l'échelle de la vie politique d'un président américain, il n'est pas sûr que le pari de Trump fonctionne.
Et alors, justement, quel scénario serait possible à partir du moment où les États-Unis se sont retirés de l'accord, donc ont brisé un certain consensus diplomatique? S'il n'est pas possible non plus, comme les Européens ont tenté de le faire, d'arrimer en quelque sorte économiquement l'Iran, est-ce que quand même le régime va pas devoir faire des concessions sur ces fameux 12 points et 12 demandes qui ont été faites l'année dernière par les États-Unis, c'est-à-dire programme balistique notamment?
Je pense que le régime va au contraire essayer de créer des divisions au sein de la communauté internationale et il va jouer à plein la carte chinoise et la carte russe. Donc contrairement aussi, là aussi, aux attentes en Occident d'une division entre l'Iran et la Russie ou d'une division entre l'Iran et la Chine, je pense au contraire ça va pousser ces pays à se coaliser, surtout si le risque d'une confrontation militaire ouverte augmente, parce que la Russie et la Chine n'ont pas intérêt à cette guerre américaine dans le Golfe Persique, ni les États de la région d'ailleurs. Donc c'est vrai que plus la pression va augmenter, et c'est pour ça aussi la dernière rétractation du président américain est à comprendre dans ce contexte, puisque plus la pression augmente, plus les enjeux changent. Donc les pays vont se positionner de manière différente vis-à-vis de la confrontation irano-américaine, si le risque de guerre est imminent ou pas. Donc c'est pour ça que Trump retourne à l'outil des sanctions, pour essayer de créer du consensus, parce qu'il y a vraiment un risque de division, et l'Iran peut quand même essayer d'organiser la survie du pays, même si c'est la population qui va souffrir, et qu'on constate aujourd'hui des phénomènes d'appauvrissement en Iran, avec une inflation de 40% et des conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles. En fait, sanctionner les autorités de la République islamique aurait dû être la première décision prise par l'administration américaine dans la logique de sa politique.
Et là,
parce que pour l'instant, les sanctions qui avaient été prises ont touché d'abord la population.
Et là, effectivement, ces sanctions arrivent à la fin. Bah, à voir les effets que ça produit. Certains ont dit que peut-être il pourrait y avoir un possible limogeage aussi des faucons américains qui forceraient la main à Trump. Ça, c'est l'autre volet à suivre. Mais merci beaucoup pour vos explications ce matin, Clément Terme. Je le rappelle, chercheur à Bahreïn pour l'IISS, International Institute for Strategic Studies. Merci, bonne journée.